Bonjour à toutes et à tous. Alors, il est 30 pile, donc je prends la parole quelques instants, comme ça, ça permet aux retardataires de prendre le train en route. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'au Musée des Beaux-Arts pour ce rendez-vous entre midi et sciences de la Galerie Rocca. Merci surtout à toute l'équipe du Musée des Beaux-Arts de nous accueillir ici et de nous avoir inscrits également dans votre programmation. Parce que, comme j'ai dit à certains, nous ne sommes pas ici par hasard. C'est tout simplement pour entrer en résonance avec l'exposition Two Mountains. Alors, je ne vais pas vous dévoiler parce que je vais laisser la parole. Alors, du coup, ça me fait l'occasion de présenter mes intervenants et pas les manger. Donc, de présenter Annalise Bayon, Annalise, que certains ont pu rencontrer à midi pour une visite express de l'exposition Two Mountains. Et puis pour aborder cette thématique, cette question qui est Anthropocène, une nouvelle ère géologique, eh bien nous avons le plaisir d'avoir Fabien Arnaud, qui est directeur de recherche au CNRS et au laboratoire Editem de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Donc merci à vous deux d'être venus pour ce café débat et surtout de vous prêter aux questions du public. C'est un café débat un peu hybride, si vous connaissez les entre-midi et sciences, c'est-à-dire que pendant 30 minutes, je vais vous laisser la parole pour nous cadrer, nous exposer un petit peu le sujet et la problématique. Et ensuite, nous échangerons avec vous et nous vous questionnerons. Anaïs, je vais peut-être commencer juste la première question pour lancer un petit peu le débat, pour que tu nous expliques un petit peu pourquoi nous sommes ici et quel est le lien avec l'exposition Two Mountains.
Alors, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir nombreux déjà pour ce Midi Sciences, qui est une première pour nous. On est ravis quand on peut travailler avec nos collègues de la Galerie Eureka. Voilà. Donc, oui, on a tout de suite... Alors, j'ai pas l'habitude du micro. Moi, je parle jamais avec un micro. On a tout de suite pensé à vous. Quand on a préparé cette exposition Two Mountains avec l'artiste Julien Guinan. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, cette exposition, Julien Guinan, il a travaillé au Japon sur plusieurs années et sur deux montagnes en particulier qui s'appellent Kumano et Ashio, qui sont deux montagnes impactées par notre action, l'activité humaine. À Kumano, il y a énormément de glissements de terrain et le choix qui est fait pour penser les plaies de ces glissements de terrain, c'est de bétonner la montagne, de bétonner la forêt. Et a priori, c'est un choix qui est amené à durer, puisque je l'expliquais aux gens qui ont fait la visite avec moi. Il y a 300 000 sites détectés comme à risque et qui vont être bétonnés dans les années à venir. Et je ne parle que d'une péninsule, que d'un petit endroit finalement du Japon. Et puis l'autre montagne qui s'appelle Ashio, elle a connu une catastrophe écologique sans précédent dans les années 1900-1910, avec en fait une pollution massive des sols, de l'eau, etc. Et le paysage a fortement été marqué par cet épisode de pollution. Et donc Julien Guinan propose, à travers la photographie, un regard sur le paysage actuel de ces deux montagnes et soulève des questions, et notamment la question de l'Anthropocène. Alors évidemment, il n'est pas scientifique, il ne pose pas de réponse là-dessus, mais par ses photographies, il veut éventuellement amener au débat, au questionnement. Donc c'est pour ça que ça nous paraissait très pertinent d'ouvrir évidemment cette rencontre à un scientifique. Donc je vais vous laisser la parole maintenant.
Merci Anaïs. Simplement pour introduire un petit peu le débat, à travers l'exposition, nous avons eu deux exemples de l'impact humain sur l'environnement. Certains scientifiques par même nous disent qu'on est rentré dans une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène. Et c'est là où Arnaud, on a envie de te questionner en disant mais qu'est-ce qu'une ère finalement, qu'est-ce qu'une ère géologique et est-ce qu'on est en train de changer d'ère géologique? Voilà un peu les deux questions pour lancer le débat, mais beaucoup d'autres vont suivre. Je te passe le micro.
Bon, alors merci. Beaucoup de choses ont été dites. Notamment quand on allait demander des réponses à des scientifiques, à un scientifique. Alors, il se trouve que je suis chercheur au CNRS, donc je suis à peu près ingérable et j'ai été recruté pour ça. Et donc, j'ai du mal à répondre à ce genre de questions. Tout d'abord, je tiens à préciser que des scientifiques, il y en a plein. C'est des gens qui utilisent leurs connaissances dans leur activité professionnelle. Et parmi ces gens-là, il y en a qui sont chercheurs, dont je fais partie. Et quand on fait de la recherche scientifique, notre métier n'est pas d'utiliser de la connaissance, notre métier est de la créer. Ça veut dire qu'on n'apporte pas forcément des réponses et notre première fonction, c'est de bien connaître ce qu'on ne sait pas et identifier parmi tout ce qu'on ne sait pas, ce à quoi on peut apporter quelques éléments supplémentaires de connaissance. C'est une tâche qui est extrêmement immodeste quand on prend conscience de la somme de connaissances dont les humains sont pourvus aujourd'hui et qui doit tout de même rester une pratique extrêmement humble. Car évidemment, face à cette masse de connaissances, ce qu'un individu peut apporter, c'est jamais énorme, à quelques exceptions près, de quelques génies, et il y en existe. Mais moi, j'en rencontre assez peu dans mon activité quotidienne. Donc je ne sais pas si je répondrai à la question sur l'ère géologique, etc. Mais je vais essayer de vous donner une perspective temporelle, en tout cas. Donc on parle de temps. Et effectivement, vous verrez que c'est une des matières avec lesquelles je travaille le plus sur finalement la place que cette espèce un petit peu particulière, en tout cas qui nous est chère, qu'on appelle Homo sapiens sapiens, la place que cette espèce prend sur cette petite planète qu'on voit ici. On reviendra sur cette photo, je pense, à la fin. Alors je parle de cette espèce. Je vous parle d'humilité. Il faut savoir que en masse de carbone, nous représentons 0,01% de la biomasse totale présente sur cette planète et, jusqu'à preuve du contraire, de la biomasse totale de l'univers. Donc ça doit quand même nous amener à un tout petit peu d'humilité. Cependant, alors vous avez ici là, ces grands carrés, ça représente en fait, la taille du carré représente la biomasse de chacun de ces groupes. Hein. Donc vous voyez que les plantes dominent largement le vivant. Et puis les animaux, c'est ce petit carré qui est ici. Et donc à l'intérieur de ce petit carré, on commence à apparaître, vous voyez les humains sont en bas à droite là-bas. C'est 4% de la biomasse totale des animaux. Ça commence à faire beaucoup. Mais si on ajoute les humains à leur bétail, on voit que là, c'est 96% de la biomasse des mammifères. Donc les mammifères sont des animaux qui occupent des niches écologiques qui sont à peu près similaires aux nôtres. Et là, on voit un trait de caractère de cette espèce qui a tendance, qui a une assez forte tendance à faire le ménage autour d'elle quand ça l'arrange. Comment ça se voit? Si on prend cette carte de la Terre, ici vous avez les 4,3 millions de localités les plus peuplées. Donc c'est à peu près toutes les localités du monde. Et vous voyez que les humains prennent quand même pas mal de place à l'échelle de la planète. Ils prennent tellement de la place, ils ne se contentent pas d'habiter, d'être présents dans tous ces endroits. Ils vont aussi transformer le milieu à leur avantage. C'est ce qu'on appelle une espèce ingénieur, une espèce qui est capable de modifier le milieu pour assurer sa survie et sa reproduction. Et ici, vous avez une représentation en vert des 44% de terres émergées qui sont actuellement considérées comme peu modifiées. Ça veut dire que 56% de la surface terrestre est modifiée ou très modifiée ou totalement artificialisée par nos activités. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit clin d'œil ici. L'honorable monsieur sans gêne, quand on représente 0,01% de la biomasse totale de ce qui vit à la surface d'une planète, est-ce qu'on est vraiment fondé, est-ce qu'on a vraiment légitimité à transformer à notre profit 56% de la surface terrestre habitable? Surtout que ce qu'on a laissé, vous voyez que c'est... voilà. C'est quand même le Grand Nord, le Groenland, c'est des endroits de toute façon, on n'avait pas grand-chose à y faire. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ça en vert, mais c'est vert normalement. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Je ne sais pas si vous avez lu cette excellente bande dessinée de Blin et Jean Covici qui s'appelle Un monde sans fin. Ici, le dessinateur a voulu prendre la métaphore d'un Iron Man totalement... accro aux énergies fossiles. Et cette consommation d'énergie fossile nous a donné un surcroît d'énergie surcroît de puissance qui nous a permis d'atteindre ce 56% de terres transformées. Sans ça, on n'y serait jamais arrivé, évidemment. Hein, s'il avait fallu qu'on retourne la terre à la main, on n'y serait jamais arrivé. Donc c'est très bien, c'est très très malin de la part des humains d'être allé chercher une énergie en dehors d'eux-mêmes, hein, se créer une sorte d'exosquelette, c'est comme ça que le présente Jean Covici, qui lui donne un surcroît de puissance. Je me rends compte que j'ai oublié de démarrer mon petit chrono, et donc je vais déborder, c'est à peu près certain. Alors, petit souci, évidemment, tout se paye. Et donc, le fait d'aller chercher de l'énergie fossile, en fait, l'énergie fossile, c'est quoi ? Le vivant a une capacité, notamment ceux qui font de la photosynthèse, a une capacité à prendre du carbone oxydé dans l'atmosphère et à le transformer en carbone réduit. Ça, pour créer de la matière. Et en fait, en faisant ça, on va stocker de l'énergie, puisque pour faire ça, les plantes, vous l'avez sans doute appris à l'école, utilisent la photosynthèse. C'est-à-dire qu'on utilise l'énergie du soleil pour dissocier cette molécule de CO2, de carbone et d'oxygène. On enlève l'oxygène, on le renvoie dans l'atmosphère, et puis on récupère le carbone sous forme réduite. Et donc, en fait, ça nous donne un potentiel d'énergie chimique qui est stocké. La plupart du temps, quand un organisme meurt, il est remangé, on va dire, pour dire simplement. Et puis, donc, son carbone repart dans l'atmosphère. Mais de temps en temps, ce carbone, l'animal ou la plante n'est pas consommé et se retrouve enfoui dans les couches géologiques de la Terre. Et ça prend plusieurs millions d'années à être effectué. Et puis, quelques millions d'années plus tard, un tube d'acier descend à l'endroit où il y avait la bestiole qui est morte. Et puis, on va récupérer ce carbone enfoui depuis des millions d'années. Et en quelques secondes, on va le reconsommer pour utiliser l'énergie qui était stockée à l'intérieur de sa matière. Mais évidemment, à ce moment-là, on rend le CO2 vers l'atmosphère. En gros, on stocke pendant des millions d'années du carbone et on le libère pendant quelques années. C'est ça qui est en train de se passer actuellement. Et c'est ça qui explique qu'à l'échelle planétaire, ce qui s'est passé, vous voyez ici cette évolution, alors ces premiers graphes, où je vais vous montrer des courbes d'évolution de quelque chose en fonction du temps. Donc voilà, ça c'est l'an 2000, donc c'est aujourd'hui. Hein. Et vous voyez l'évolution de trois gaz dans l'atmosphère. Et vous voyez que, grosso modo, c'est stable. Et puis là, hop, ça explose. C'est pas des blagues, ça. Ça c'est mesuré, quoi. Autant tout à l'heure, je vous parlerai beaucoup de doutes, peut-être. Ça, il n'y a pas de doute. C'est mesuré. Et donc, évidemment, comme le présente le petit bonhomme, une espèce qui est capable de modifier l'atmosphère de la planète sur laquelle elle vit, c'est une espèce qui a une grande capacité de modification de son milieu. Alors, on ne peut pas dire que c'est jamais arrivé. Si aujourd'hui, il y a 18% de taux d'oxygène dans l'atmosphère, c'est grâce à des espèces qui ont fait ça il y a quelques centaines de millions d'années. Mais elle n'en avait absolument pas conscience. La différence, c'est que les humains en ont tout à fait conscience aujourd'hui. Même ceux qui disent que c'est pas vrai, en fait, ils en ont conscience, c'est juste qu'ils veulent pas le croire. Du coup, de ce fait, dans les années 2000, à force que tout le monde pisse dans les violons depuis longtemps, c'est commencé à rentrer dans le débat public que, effectivement, les humains étaient en train de modifier la composition de l'atmosphère et que ça avait un rapport, une influence sur l'évolution du climat à l'échelle globale. Et donc cette personne, Joseph Crutzen, a été un des premiers à proposer qu'on entre dans une nouvelle ère. Alors il l'a appelée ère anthropozoïque, c'est marqué ici, donc dans cet article fondateur de 2002. Et je vous ai mis une petite traduction en bas à droite là-bas. Donc l'Anthropocène pourrait avoir commencé à la fin du XVIIIe siècle, époque à laquelle les analyses de l'air piégé dans les glaces polaires montrent le début d'une augmentation des concentrations en dioxyde de carbone et en méthane. Donc pour répondre éventuellement à la question de Jean-Yves sur le début de l'ère géologique, donc en tout cas c'est la première fois que quelqu'un a proposé le fait qu'on change d'ère géologique. Alors des aires géologiques, il y en a eu quatre depuis 4,5 milliards d'années, Donc, c'est pas rien de changer d'ère géologique, ça n'arrive pas non plus tous les 4 matins. La dernière a commencé il y a 2,6 millions d'années. Donc avant de se lancer là-dedans, il faut quand même un petit peu réfléchir et on va voir un petit peu ce que ça veut dire tout ce cas. En tout cas, ce que ça veut dire, ce qu'on peut retenir, c'est que la vision de Paul Crutzen est extrêmement climato- et atmosphère-centrée. Dans sa vision, l'ère anthropozoïque, c'est parce que les humains mettent du CO2 dans l'atmosphère et que ça modifie le climat. Cette vision-là, aujourd'hui, est un petit peu remise en cause et, par un certain nombre de choses. Ici, ce que je vous ai reproduit sur la droite de l'écran, c'est ce qu'on appelle les limites planétaires. Donc, c'est un concept qui a été proposé à la fin des années 2000 par un chercheur qui s'appelle Rockström, qui s'est dit, à l'échelle de la planète, est-ce qu'on pourrait regrouper par grands ensembles les grands défis environnementaux qui sont devant nous, et est-ce qu'on est capable de quantifier la gravité de chacune de ces situations, en quelque sorte. Et donc, ils ont travaillé avec un groupe qui s'appelle le groupe pour la résilience, sur essayer d'établir ces grands groupes. Donc, vous voyez, ça va du changement climatique à l'intégrité de la biosphère, en passant par l'émergence de polluants, l'ozone, la charge en aérosol, etc. Et ils ont essayé d'identifier la gravité de la situation. Donc, c'est les couleurs que vous voyez. Donc, quand c'est rouge, ça craint grave. Quand c'est vert, ça peut aller. Et quand c'est jaune, c'est à surveiller. Alors, assez étrangement, vous allez me dire, mais c'est bizarre. Pourquoi le climat, c'est que jaune? Ça marche, ce truc? Voilà, ici, là. Hop. Ben oui, le climat, aujourd'hui, c'est que jaune. Et effectivement, quand vous vous levez le matin, il ne fait pas 40 degrés au mois de février. Donc, ça va encore. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien, puisqu'en fait, on n'a pas atteint le moment crucial, mais comme il y a des effets retard importants, on est tranquillement en train d'y aller. Vous voyez qu'il y a des choses très très graves. Ici, là, la diversité génétique, et notamment qui va impacter l'intégrité de la biosphère, elle est en grand danger. Vous avez peut-être entendu parler du concept de sixième extinction. Alors, moi, je ne suis pas biologiste, donc on n'en parlera peut-être pas trop aujourd'hui, mais c'est un point extrêmement grave. Actuellement, il y a la COP15, sur la biodiversité qui a lieu dans l'indifférence à peu près générale. Mais il faut quand même savoir que l'atteinte à la biodiversité, c'est quelque chose qui est extrêmement dommageable pour les équilibres de cette planète. Puis un point important aussi dont les gens n'ont pas forcément conscience, les flux biogéochimiques, ces deux éléments, phosphore et azote, sont deux éléments indispensables à la vie. Et la perturbation de ces... en gros, c'est ce qu'il y a dans les engrais. Et donc, quand on utilise des engrais, ce qu'on fait, c'est qu'on en prend d'un côté, on en enlève de l'autre, etc. Et on se retrouve aujourd'hui avec une très grosse crise, notamment de phosphore et d'azote. Il y en a trop à certains endroits. Les marées vertes en Bretagne, dont on se demande pourquoi, depuis 40 ans qu'on sait pourquoi il y a des marées vertes, personne ne fait rien. Ou l'eutrophisation du lac du Bourget, sur lesquels on a travaillé aussi. Voilà, tout ça, c'est les problèmes d'eutrophisation. Il y a des excès de nutriments à certains endroits. Et par ailleurs, à d'autres endroits, on en manque terriblement. Certaines terres sont en train de se stériliser par surexploitation. Si on ne rapporte pas des nutriments, eh bien on arrive à avoir des terres qui ne produisent plus et donc des gens qui n'arrivent plus à manger. Voilà. Donc ça, c'était pour défocaliser un petit peu le débat du seul problème du changement climatique. C'est-à-dire que ça n'enlève absolument rien à l'importance et à l'urgence de traiter la question du changement climatique, mais malheureusement, je suis obligé de vous dire que, et en plus, il y a d'autres problèmes tout aussi importants et tout aussi urgents. Et donc défocaliser, ça veut dire ne pas considérer les choses comme étant des blocs séparés les uns des autres. C'est pour ça que certains chercheurs ont forgé encore un autre concept qu'on appelle le concept de zone critique, qui est en fait un concept spatial. C'est défini comme étant un espace. En fait, la zone critique, ça va du sommet des arbres, donc là où on a l'interaction entre l'atmosphère et la biosphère, interaction entre l'atmosphère et la biosphère via la photosynthèse dont je parlais tout à l'heure. C'est là que ça se passe. C'est dans la feuille de l'arbre que le CO2 est capté pour être intégré dans la biomasse. Ensuite, il va passer dans le sous-sol, où là, il est. Alors là, c'est une image qui est centrée sur les flux de carbone, mais il y a énormément de problématiques qu'on peut étudier à l'échelle de la zone critique. Donc cet espace qu'on appelle zone critique, donc qui va du sommet des arbres jusqu'à l'endroit où la roche est altérée, Donc ici, vous avez la lithosphère, c'est la planète Terre. Et puis là, vous avez l'endroit où la roche est altérée, c'est-à-dire, en gros, pour faire simple, le sol, là où on a des interactions entre la lithosphère, l'atmosphère et le tout ça sous la médiation des êtres vivants. Que font les êtres vivants ? Ils vont pomper une partie du CO2 de l'atmosphère, le transférer dans leurs racines, ça va créer des acides, ça va attaquer les roches. C'est comme ça qu'on fabrique du sol. C'est comme ça qu'on passe d'un granit à un sol. Donc c'est une zone qui est un espace scientifique extrêmement intéressant. Ça nous a permis de décloisonner les disciplines et de développer une écologie, au sens, une écologie scientifique évidemment, au sens moderne du terme, qui serait, que je définirais comme une science des interactions entre des processus biotiques, sociétaux et abiotiques. Ça nous permet d'intégrer la totalité de ces processus pour essayer de comprendre et d'adresser les problèmes d'un point de vue totalement systémique. Donc ça c'est là où ça va. Alors, c'est un espace scientifique, mais c'est aussi un espace politique. Donc là, je voudrais rendre un petit hommage à Bruno Latour, qui nous a quittés récemment, pour qui la zone critique est la matérialisation de ce qu'il appelle Gaïa, la planète des vivants, qui organise leur propre survie en modifiant la Terre. Je vous dois une petite confession. Je vous ai montré la carte tout à l'heure avec... Les 44% de surface terrestre peu modifiée par l'homme. J'aurais pu faire la même chose avec les arbres. Hein. Oui. Et puis j'aurais peut-être eu encore moins que 44%. Hein. Tous les êtres vivants ont tendance à modifier leur milieu, depuis la bactérie qui se crée un petit cocon autour d'elle, jusqu'à les humains qui utilisent des artifices technologiques pour le faire. Tout le monde modifie, tout le monde veut sa part du gâteau, en fait, sur cette planète. Un point important sur lequel insistait beaucoup Bruno Latour, c'est le côté extrêmement fin de cette zone critique à l'échelle de la planète. Vous avez une représentation de la planète ici avec sa graine, son noyau, le manteau. Et en fait, l'endroit où nous habitons, c'est même pas l'épaisseur de la peau de la pomme, si vous voulez. Donc c'est une très 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 fine pellicule et c'est là que tout se passe en fait. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la zone critique, c'est l'endroit où vont converger tous les enjeux environnementaux. Donc tout ce dont on parle ici, tous ces problèmes ou problématiques environnementales, en fait, sont concentrés dans cette zone-là qu'on appelle la zone critique. Et donc là, je vous emmène vers la question qui m'intéresse moi de plus près dans mon activité de recherche. Si on veut étudier ces interactions, quelle est l'échelle de temps à laquelle on doit se positionner ? Donc dans les 3-4 diapos qui suivent, je vais vous faire un espèce de zoom temporel et puis on verra ensuite quelques exemples. Donc ça, c'est une vieille représentation, hein, ça date des années 90. Les auteurs se sont posé la question, quelles sont les échelles de temps pertinentes pour étudier les processus environnementaux ? Alors ils vont de la seconde au milliard d'années. C'est beaucoup. On a des orages, ça dure quelques minutes ou heures. Des processus microbiens, c'est très très rapide. Et puis ça va jusqu'à la formation des réseaux de drainage, ce qu'on appelle les réseaux de drainage, en gros une rivière. Pourquoi le Rhône coule là où il coule ? C'est pour des raisons qui sont géologiques. Et donc ça s'explique sur des échelles de temps de plusieurs millions d'années, par exemple. Et puis entre les deux, vous avez tout un tas de choses. Alors évidemment, on ne peut pas embrasser tout ça d'un seul coup. Je vais recentrer un petit peu sur les périodes qui pourraient nous intéresser. Vous rappelez quelques bases de géologie. Nous vivons actuellement dans une époque qui s'appelle l'Holocène. C'est forgé à partir de deux mots. Holos, qui veut dire complètement. Cénos, qui veut dire récent, et donc l'Holocène, c'est complètement récent. Pendant quand même la géologie moderne a à peu près 250 ans, donc pendant 250 ans, ça a été considéré comme, quand moi je travaillais là-dessus, j'étais un des premiers à travailler là-dessus dans le coin, on me disait que je travaillais sur le Poubellien supérieur, voilà. Pour les géologues, c'est pas très noble hein, de travailler sur cette période-là, c'est vraiment le tout récent. Ça date de 11 500 ans et c'est une époque interglaciaire. Ça veut dire qu'on est dans une période où il n'y a pas de glace au-dessus de notre tête. Pourquoi c'est une période interglaciaire ? Parce qu'il y a des périodes glaciaires. Depuis 2,6 millions d'années, nous sommes entrés dans une ère géologique qu'on appelle le Quaternaire, qui est caractérisé par le fait qu'on a de manière récurrente l'apparition de très grosses calottes de glace aux deux pôles, et notamment au pôle Nord. Donc actuellement, il n'y a pas de glace. À part la banquise, il n'y a pas de glace au pôle Nord. Vous n'avez pas une très grande calotte polaire sur la Scandinavie. Vous n'en avez pas non plus sur les Alpes, mais il y en a eu. Et donc la dernière a totalement disparu il y a 11 500 ans. Donc depuis 11 500 ans, on vit dans une période interglaciaire. Quand je dis que c'était une période glaciaire et que ça nous concernait, c'est pas pour rire. Ici, au-dessus de nos têtes, il y a, alors pas 11 500, mais il y a 18 000 ans, il y avait 1 500 mètres de glace. Un glacier qui traversait, qui passait par-dessus l'épine et qui retombait directement dans le lac d'Aiguebelette, par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc ces changements climatiques-là sont vraiment de très grande ampleur. Et donc, il y a un intérêt à étudier cet interglaciaire parce que c'est celui dans lequel nous vivons. Et donc, c'est le meilleur analogue de ce qu'auraient pu être les choses s'il n'y avait pas eu la présence de l'homme. Donc, c'est l'intérêt d'étudier cette période qui a 11 500 ans. Et c'est ce que représente cette petite frise là. Donc, on part d'une période où tout est glacé et puis la glace va petit à petit disparaître. Les réseaux de drainage vont se mettre en place, les rivières, etc. Donc on va avoir une espèce d'équilibre écologique qui va s'installer sans influence des humains. Par exemple, ici, les premières cultures au sens les gens qui ont cultivé la terre et qui ont eu des troupeaux, c'était il y a 7000 ans. Pour un géologue, 7000 ans, c'est même pas un battement d'œil, c'est rien du tout. C'est extrêmement récent. Donc pendant quelques milliers d'années, au début de l'Holocène, bien tout s'est passé sans intervention des humains. Et puis petit à petit, les humains ont pris de plus en plus de place, ont transformé de plus en plus le milieu jusqu'à arriver à... Voilà, je pense que vous avez conscience que c'est pas normal d'avoir ça sous les pieds. S'il n'y avait pas eu d'humains, on n'aurait pas de béton sous les pieds, là, alors qu'il est. On serait dans un joli marécage, bien insalubre. Et voilà, pour arriver aujourd'hui à... Ce que nous avons. Donc cette échelle de temps-là, qu'on va appeler longue, nous, de notre point de vue, ensemble, parce que s'il y a un géologue dans la salle, il pourra me dire qu'il n'est pas d'accord, c'est l'échelle de temps des héritages, c'est-à-dire c'est ce sur quoi nous avons bâti ce que nous avons bâti. Nous n'avons pas bâti nos sociétés sur des glaciers, nous avons bâti nos sociétés sur un monde dans lequel les glaciers venaient de se retirer. C'est ça que nous avons fait et c'est ce monde-là que nous avons transformé. Donc il est intéressant de le comprendre et de comprendre comment il a fonctionné. Ça nous permet de comprendre les processus avant les perturbations et de comprendre les interactions entre ces processus. Par exemple, l'interaction entre CO2 et température. Ça a été démontré à l'échelle du quaternaire. Alors si on zoome un petit peu dans le temps, on va se poser la question, et du coup, alors les humains, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est ce que j'appellerais l'anthropocène étendu, à quelques siècles, à quelques millénaires. Alors on prend souvent l'exemple des déforestations, etc. Alors j'ai voulu prendre un petit peu le contre-pied, je vous ai dit que j'étais ingérable, donc on va parler d'autre chose. Par exemple, la lutte contre tout ce qui nuit aux récoltes. Ben, en fait, la lutte contre tout ce qui nuit aux récoltes, ça date probablement de la deuxième récolte. Parce qu'au début, ils ne savaient pas, puis en fait, ça date probablement d'avant. Parce que c'est des processus, évidemment, rien n'est jamais on-off, il n'y a jamais un avant et un après. Tout ça, c'est des processus continus. Mais en tout cas, depuis que les gens ont choisi de miser leur avenir sur leur récolte, c'est un choix, c'est une stratégie. Tous les vivants à la surface de cette planète ont une stratégie de survie. Les humains, à un moment donné, ont choisi comme stratégie de capitaliser sur le stock de nourriture. C'est un choix qui en vaut un autre, qui est souvent qualifié sous le terme de révolution néolithique. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un changement de stratégie. Et on adopte une stratégie basée sur l'accumulation de nourriture. Bon, forcément, il y a du monde autour qui est intéressé par cette nourriture. Des souris, des bactéries, tout ce que vous voulez. Et tout le monde est bien content que les humains accumulent de la nourriture, parce qu'on peut se servir dedans. Et donc la lutte contre tout ce qui va nuire à la qualité de cette accumulation de nourriture, ça existe depuis la nuit des temps. Alors, ça c'est une petite frise qui avait été faite par l'Association de protection de l'environnement américaine, que j'ai essayé de vous traduire tant que je pouvais. Donc les plus anciennes mentions qu'on aurait de pesticides, ce serait 3500 ans avant aujourd'hui, dans l'Égypte ancienne. on mentionne l'utilisation de pesticides. Je n'ai pas retrouvé ce que c'était, mais bon, ça marchait pas. C'était peut-être des recettes de grand-mère, j'en sais rien. Même Homère parle de l'utilisation de soufre comme insecticide. Et puis on remonte comme ça, utilisation de bitume, utilisation de vinaigre, de bouse, d'urine contre les virus, par exemple. Alors, c'est bizarre parce que les virus, on ne savait pas que ça existait à cette époque-là, mais bon. Et puis si on remonte, on remonte, on remonte, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer nos techniques. Et ça, les humains, c'est un truc qu'ils savent super bien faire. À partir du moment où il y en a un qui a eu une idée, souvent, lui, il est assez génial, un ou une. Hein. Cette personne est relativement géniale. Et après, derrière, les esprits moins géniaux, comme je m'inclus dedans, bah, en fait, ce qu'on sait super bien faire, c'est améliorer la technique. Donc on va faire mieux que le génie, mais simplement parce qu'on a été capable d'ingurgiter ce qu'il a apporter de génial, et puis on va apporter quelque chose de nouveau. Jusqu'à inventer des trucs totalement artificiels qui n'existaient pas avant, le cas d'initro de crésilate, par exemple. Ça a été la première molécule artificielle conçue pour tuer des bestioles. Ça, c'est pour vous montrer que sur cette histoire qui s'échelonne donc sur 3500 ans, on va perfectionner les méthodes et on va avoir une emprise de plus en plus importante sur le milieu. Je ne sais pas s'il y avait des cancers qui étaient liés aux insecticides, aux pesticides qu'utilisaient les Égyptiens, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, il y a énormément de cancers de l'humain aujourd'hui qui sont dus à l'utilisation de ces molécules artificielles. On y reviendra peut-être. Donc, une histoire très ancienne. Mais pourtant, on peut distinguer la période tout à fait récente. Encore plus, je dirais. C'est ce qu'on appelle le vrai Anthropocène. Après 1950, on verra pourquoi cette date de 1950. Ce qui est certain, c'est qu'au XXe et au XXIe siècle, cette inventivité humaine, poussée à son paroxysme, par notamment sa capacité de transmission d'informations, a mené à un raffinement dans la capacité à tuer tout ce qui ne nous arrange pas, absolument incroyable. Vous avez ici le nombre de substances actives inventées chaque année. Moi j'ai fait disparaître. Alors là, on est en 1900, là on est en 2000, excusez-moi, ça a disparu l'échelle. Et donc vous avez le nombre de substances actives inventées par les humains pour tuer des trucs vivants. Et puis là vous avez le nombre de produits commerciaux. On en est à bientôt 3500. Sachant que vous avez vu ce qui s'est passé sur le glyphosate, pour une molécule, la difficulté que nous avons en tant que scientifiques à démontrer que c'est dangereux. Et ensuite, c'est encore d'autres scientifiques qui doivent trouver une autre solution pour les pauvres paysans qui ne peuvent plus utiliser le glyphosate, etc. C'est extrêmement compliqué. Cette course est perdue d'avance. Ce que ça rapporte, c'est plusieurs ordres de grandeur supérieurs à ce que nos sociétés sont prêtes à mettre en investissement dans la recherche pour comprendre en quoi ça, c'est dangereux. Pour autant, il ne faut pas désespérer. Ah si, il faut désespérer. Merde. J'avais oublié que j'avais mis ça. Donc je vais écrire ici, y compris les autres humains, hein, parce que les nuisibles, des fois, ils ont deux pattes. Enfin, quatre pattes, dont deux pour se tenir debout. 1950, pourquoi 1950 c'est pour ça, excuse-moi Jean-Yves, mais ça ne m'intéressait pas trop cette histoire d'ère géologique, mais je vais quand même en parler un petit peu. Parmi les géologues, il y en a des qui sont un peu particuliers, c'est les stratigraphes. Alors ils aiment bien eux, mettre des limites, quoi. Ça c'est leur trip. Donc, vous avez compris que moi c'est pas mon trip, mais donc, il faut mettre des limites. Et ils ont dit, mais non, 1800 machin, le CO2, on n'est pas capable de le mesurer, on peut le mesurer que dans les glaces. C'est pas pratique, on va pas le retrouver partout dans la planète, trouver autre chose, c'est pas bon quoi. Et donc les gens ont trouvé que ce qui était vraiment marqueur des activités humaines et qu'on retrouvait partout sur la planète, c'est les radioéléments qui ont été déposés à l'échelle planétaire lorsqu'on s'est amusé à faire sauter des petites bombinettes dans ce goût-là à la surface de la Terre. Donc ça, ça dégage énormément d'énergie. Enfin, j'ai pas besoin de vous dire que c'est une bombe nucléaire. Donc ça dégage énormément d'énergie, donc c'est ça qui est recherché, hein, le côté, c'est une grosse bombe en fait, un gros pétard en fait. Donc là on tue tout le monde autour. Et le petit problème, c'est que, bah, évidemment, tout, ça s'accompagne de tout un tas de productions de ce qu'on appelle des radionucléides, donc des isotopes radioactifs, qui n'ont aucune raison de retomber gentiment juste là, hein, vu qu'on les envoie à plusieurs centaines de kilomètres dans l'atmosphère. Bah, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se répartir partout dans le monde. Et ça, les stratigraphes ont dit, ça c'est bien, ça c'est vachement bien, ça, c'est bien d'avoir fait ça, parce que du coup, ça nous fait une couche riche en radioéléments. Ça va bien rester longtemps, c'est bon, ça on achète. Donc voilà, donc l'Anthropocène, donc répondre à la question, ça commence en 1950. Alors c'est pas encore officialisé, mais c'est le truc qui tient pour le moment la corde pour être le clou d'or de l'Anthropocène. Bon, honnêtement, c'est pas super intéressant. Enfin, c'est mon point de vue. Bon, alors, il faut quand même que je vous remette un petit peu le moral. Hein. Oui, bien sûr, 20e, 21e siècle, tuer les autres, ça a été vraiment un truc qu'on a bien aimé faire. On s'est vraiment creusé la nénette pour y arriver. Mais nous ne sommes pas tous belliqueux, heureusement. On a aussi on a commencé à se rendre compte que c'était peut-être une connerie. Que c'était peut-être aussi une façon de scier la branche sur laquelle on était gentiment assis. Et donc, on s'est dit, bah, quand même, il faut un peu réguler les choses, quoi. C'est la phrase qu'on prête à Camus. Un humain, ça s'empêche. Et je pense qu'il y a une chose à retenir de tout ce que je vais vous dire là, c'est ça. À un moment donné, ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose. Hein. Je peux, hein. J'ai suffisamment d'argent sur mon compte en banque. Demain, si je veux aller passer 3 jours à la Barbade juste pour le plaisir, je peux. Je peux. Est-ce que je dois le faire ou est-ce qu'il faut que je le fasse? Je ne sais pas, c'est moins clair. Donc, on a mis en place des régulations. Évidemment, comme chacun, on ne peut pas se reposer simplement sur la bonne volonté de chacun. On a essayé de monter des régulations. On a quand même eu quelques réussites. Les armes nucléaires ont été contrôlées. Les essais nucléaires aériens ont été bannis, même si les Français ont un petit peu des libertés avec ce point. L'essence plombée, ça a été banni. Les CFC qui faisaient un trou dans la couche d'ozone dans les années 90, ça a été banni. Certains pesticides, trop peu, ont été bannis. Donc on a mis en place des régulations. Et puis autre chose, on a décidé, quand même collectivement, dans les États qui tiennent à peu près la route, qu'on allait investir une partie de nos revenus, notre capacité économique, à surveiller tout ça pour voir un petit peu comment tout ça évolue. Donc on envoie des satellites, vous voyez, qui coûtent très très cher. Encore que par rapport à ce que gagne Bayer, ça reste modique. Et donc on a créé un réseau global de surveillance. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que depuis qu'on a pris cette conscience, donc c'est dans les années 80-90, on commence à mettre en place un réseau de surveillance de l'environnement. Or, si vous avez bien retenu ce que je vous ai dit, comment voulez-vous comprendre des processus qui se déploient sur des dizaines, des centaines, des milliers d'années avec un réseau de surveillance que vous avez mis en place l'année dernière? C'est absolument impossible, en fait. Hein. Et donc, la communauté humaine et scientifique, et de la recherche scientifique en particulier, se retrouve face à une impossibilité. Je ne peux pas aller au-delà de mon espace-temps observable. Donc c'est là que j'interviens, enfin. Imaginez le temps non observable comme étant un temps ignoré. De la même manière qu'avant, on parlait de terre inconnue, parce qu'il y avait des espaces dont on ne savait absolument rien. Il y a des périodes de temps sur lesquelles on ne sait pas grand-chose. Et donc, il va falloir qu'on aille comprendre comment fonctionne la zone critique dans le passé. Évidemment, vous allez me dire, il a pété un boulon, le gars du CNRS, parce que la machine a remonté le temps. Moi, je ne sais pas comment la fabriquer. Ce n'est pas facile d'aller voir ce qui se passe. Et en fait, je vais vous donner un scoop. J'utilise régulièrement une machine à remonter le temps. Alors, je suis obligé d'admettre qu'elle est un peu plus modeste qu'une DeLorean. Alors, très souvent, ça ressemble à ça. Alors, on en a des plus grosses, hein, quand même. C'était pour la blagounette. Et ça nous sert à aller chercher quoi? Eh bien, ce type de choses-là. Donc, c'est un tube en plastique avec de la vase dedans. C'est un tube en plastique. Alors celui-ci, par exemple, la vase, c'est la vase du fond du lac du Bourget. Et j'aime bien cet exemple parce qu'il est quand même assez visuel. Voilà, vous avez l'Holocène, hein, tout va bien. Ah, oh, c'est caca. Hein. Voilà. L'Anthropocène, c'est cette couche noire. Pourquoi ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À force d'avoir utilisé des intrants chimiques et que la population autour du lac a augmenté, tout le monde a fait pipi dans le lac. On a augmenté la quantité d'azote et de phosphore dans le lac et on a forcé la production de plantes dans ce lac-là. Et toutes ces plantes qui sont tombées au fond ont été bouffées par des bactéries. Et ces bactéries ont consommé de l'oxygène et il n'y avait plus d'oxygène au fond du lac et on a accumulé de la matière organique. Voilà. Ça, c'est très bien, ça nous fait un kérogène en devenir. Dans quelques milliers d'années, si ces sédiments n'ont pas été évacués en mer, on pourra aller chercher du pétrole. Dans quelques millions d'années, si jamais nous on disparaît et qu'il y en a d'autres qui cherchent des trucs non conventionnels. Bon, c'est comme ça que se forme le pétrole. Hein. On accumule la matière organique, on l'entasse au fond. Alors on se dit, bah, c'est bien, peut-être on a stocké du CO2. Ouais, enfin bon, les lavarés, ils ont moins aimé, hein, parce que la couche désoxygénée, ils ont vraiment pas aimé du tout. Allez, on va pas parler de ça. Voilà, alors ça, c'est une petite photo sur la diversité des environnements sur lesquels on a travaillé au laboratoire. Ces lacs sont extrêmement divers. Et cette diversité, en fait, ça leur fournit, ça fait qu'ils sont une source infinie d'informations pour comprendre l'évolution de la zone critique. Je reviens en arrière. Ici, je vais pouvoir remonter le temps. Je vais partir d'ici en surface, c'est aujourd'hui. Puis, au fur et à mesure que je m'enfonce dans les sédiments, je remonte le temps. Et donc, selon ce que je suis capable de mesurer, je vais pouvoir expliquer plein de choses. Et j'ai déjà débordé mon temps, donc je vais aller super vite. On a beaucoup travaillé sur la relation à l'érosion, entre les humains et l'érosion. Ici, on est sur un petit lac. Je vous montre quand même la photo. On est au lac d'Anterne, pour ceux qui connaissent, on est en Haute-Savoie. Voilà. Donc la thésarde Charline a compté toutes les petits dépôts associés à des crues qui font plus de 5 mm sur une carotte qui faisait 20 mètres. Donc, vous voyez le travail de bénédictin que ça représente. Vous avez ici une représentation de la fréquence de ces niveaux de crues en fonction du temps. Donc on part de 10 000 ans et puis on avance dans le temps. Là, il y en a un petit peu plus. Mais, là, on se retrouve à une période où il y en a beaucoup plus. Et puis là, on a une augmentation donc, de cette fréquence des dépôts de crues. Et puis si on prend le taux de sédimentation moyen, donc la quantité qui s'accumule chaque année, il est multiplié par plus que 3 vers cette période-ci. Là. Donc 12 mètres de sédiments en 10 000 ans, puis ensuite 8 mètres en 2 000 ans seulement. Une accentuation des processus érosifs. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors on fonctionne vraiment comme on fait une recherche, comme une enquête de police en fait. Hein. On essaie d'accumuler un maximum d'indices. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les petits dépôts associés à des crues de cette période-là, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques que ceux d'avant. Et notamment, pour une épaisseur de grain, voilà, on va mesurer la taille des tout petits grains qu'il y a dans ces dépôts, eh bien on a des épaisseurs de sédiments plus importants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour une vitesse de courant, vous avez une taille de grain. Donc ce grain-là, il n'est pas très gros. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas eu une crue très importante. Par contre, il y a eu un dépôt très important. Donc ça veut dire que cette crue peu importante, elle a érodé plus facilement ce qu'il y avait sur son passage. Pourquoi est-ce qu'elle a érodé plus facilement ? Ça, c'est la question. Donc on a inventé encore d'autres trucs. Et notamment, on a été les premiers à mesurer l'ADN de mammifères dans les sédiments de lac. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Eh bien, c'est que pendant les périodes où on avait beaucoup de ces dépôts de crues, là, très fréquents, et qui avaient une signature un petit peu différente, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve ? De l'ADN de mouton, de l'ADN de vache. Et par ailleurs, nos collègues nous disaient que cette période-là, il n'y avait pas d'avancée particulièrement des glaciers. Donc le climat n'est pas responsable de cette augmentation de la fréquence des crues. Et donc, on a conclu que c'était la zone critique qui avait réagi à la fois au climat et aux activités humaines et que cette augmentation apparente du nombre de crues était liée à l'augmentation de la pression de pâturage puisque quand on met plus de vaches dans un bassin versant, on va piétiner le bassin versant et l'érosion sera facilitée. Voilà, et on a montré ça, je passe très vite, à l'échelle de toutes les Alpes du Nord, donc cette période, l'âge du fer, antiquité, on peut en reparler si vous le souhaitez. Je voulais vous montrer cet exemple plutôt positif. Donc là, on est au lac de la Tuile, hein, c'est pas très loin d'ici. Je voulais vous ramener à des exemples locaux aussi. Hein. On a mesuré donc l'évolution de l'érosion dans ce bassin versant depuis 4000 ans. Ici, c'est l'évolution du rapport entre la quantité de sol créée et la quantité de sol détruite. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge, on est négatif, ce qui veut dire que chaque année, il s'érode plus de sol qu'il ne s'en crée. Donc ça, ce n'est pas du tout soutenable. Et on voit que cette tendance, elle s'est ensuite inversée. Alors on a essayé de regarder ce que les gens avaient fait dans ce bassin versant à cette période-là. Donc on a comparé l'érosion avec nos données d'ADN. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'à l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge, donc quand il y a cette très forte érosion, on avait du pastoralisme qui était marqué par... donc ça, c'est du plantain, donc c'est associé au bétail, pardon, du jardinage, des cultures avec des céréales, etc. Et puis ensuite, donc, cette érosion chute, et donc on a regardé un petit peu quel était le type de culture qu'on avait à cette période-là, et on s'est rendu compte que ça changeait du tout au tout, avec notamment le développement qu'on n'avait pas avant de tout un tas d'arbres fruitiers. Alors il y a encore du pastoralisme, il y a encore des vaches, encore des moutons, mais on a ces arbres fruitiers qui ont été plantés à ce moment-là. Et donc notre hypothèse, c'est que les gens qui habitaient là ont essayé de développer des pratiques plus soutenables et ont planté des arbres, ont fait des cultures en terrasse pour essayer de limiter l'érosion. Voilà. Alors c'est le truc que la camarade journaliste du Dauphiné, je ne sais pas si elle est là, Ingrid, a retenu dans ce que je lui ai dit au téléphone, et donc elle a dit que j'avais dit qu'on n'avait pas attendu le XXe siècle pour inventer le développement durable. C'est un joli slogan, journalistiquement parlant. C'est jamais que 4 paysans au lac de la Tuile. Hein. Faut pas non plus généraliser trop les choses, quoi. Mais bon, c'est ce que j'ai dit. J'ai obligé de l'admettre. Bon, tout ça pour vous dire que oui, c'est 4 paysans au lac de la Tuile, mais ce que nous faisons, nous, notre objectif... Moi, mon objectif, je suis pas historien, c'est pas de dire ce que les gens ont fait au lac de la Tuile. C'est pas ça, mon métier. Par contre, à partir de toutes ces observations, on va essayer de créer des modèles qu'on va généraliser à l'échelle globale. Et donc, on a, je ne vais pas revenir là-dessus, publié ce type de petit modèle qui explique comment est-ce que les sols évoluent et régressent en fonction des changements climatiques et des changements d'usage des sols. Je vais vous prendre un dernier exemple sur les pesticides. Vous verrez que l'érosion, c'est quelque chose qui est plus important qu'on l'imagine. Encore un exemple local, on est au lac de Saint-André, donc juste sous le granier. Nous avons mesuré dans les sédiments de ce lac tous les pesticides qui ont été possiblement utilisés dans le coin. Donc on les retrouve tous, un par un, ils apparaissent, ils sont interdits, ils apparaissent, ils sont interdits, ils apparaissent, ils sont interdits. Ça dure pendant plusieurs décennies. Et notamment, alors à la fin, en rouge, là, vous avez la courbe de l'érosion. Et à la fin, vous avez l'arrivée de celui-ci, là, qui est particulièrement sympathique, le Roundup, aussi connu... Enfin, ça, c'est son nom commercial, hein, sinon ça s'appelle du glyphosate, ou de la AMPA, en fait, en vrai. Et donc, ce flux de cet herbicide augmente terriblement ici, vous voyez, en surface, là. Donc, à partir du moment où il est commercialisé, hein. À ce moment-là, le taux d'érosion explose. Et un truc intéressant... c'est qu'on voit apparaître à ce moment-là du DDT. Or, le DDT, il est interdit d'utilisation depuis les années 70. Donc, deux solutions. Soit le paysan, en plus du moment où il a acheté du Roundup, il en a profité pour écouler un stock de DDT. C'est peu probable, parce qu'il n'a pas envie de mourir non plus. Et puis, l'autre chose qu'on a remarqué, c'est que quand même, on a essayé de creuser les informations, et on a remarqué que... il y avait plus de DDE que de DDT. Le DDE, en fait, c'est un produit de dégradation. En gros, c'était du vieux DDT. OK. Donc, je mets toutes les pièces du puzzle. Je mets du Roundup. L'érosion augmente. Et j'ai du vieux DDT qui arrive. Conclusion, ce qui s'est passé, c'est que j'avais du DDT qui était dans les sols des vignes. Hein, et en augmentant l'érosion, qu'est-ce qui s'est passé? Ce DDT, il est revenu en surface. Et je l'ai emmené jusque dans les sédiments du lac. Alors, je vous ai dit qu'on cherchait à généraliser les choses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? N'écoutons que notre courage. Nous sommes allés aux Antilles.
Ah oui, on va aux Antilles des fois.
Pour nous attaquer à un problème qui est un véritable scandale d'État, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le problème de la chlordécone. Je passe sur la chlordécone, si vous voulez, on en reparlera. On a fait deux carottes, une en Martinique, une en Guadeloupe, et nos résultats sont exactement les mêmes que ce qu'on trouve au lac de Saint-André. Quand on commence à utiliser cette magnifique molécule qu'on appelle le glyphosate, le taux d'érosion augmente. Alors là, comme on est en zone tropicale, c'est... Autant dans les vignes de Savoie, ça fait des dégâts, autant en zone tropicale, c'est n'importe quoi. Donc vous voyez que le taux d'érosion, il explose. Hein. Donc, j'ai mis cette grosse flèche noire là pour bien montrer que c'est grave. Hein. Et alors qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez la courbe de chlordécone. Voilà, donc elle est introduite à partir de ce moment-là. Alors, on en trouve un petit peu. En plus, c'est une saleté, ça se diffuse dans le sédiment, cette saleté. Donc elle est d'abord introduite dans les années 70. Les Américains se rendent compte que ça craint. Si vous voulez, je vous dirai pourquoi. Donc ils l'interdisent. Et le gouvernement français ne trouve rien de plus malin que de le réautoriser. Et donc il est réautorisé, puis interdit ici, à ce moment-là. Donc vous voyez qu'il en continue d'en avoir un beaucoup. Mais quand l'érosion augmente, eh bien, sa concentration explose. Voilà. Même processus. Même processus, ce qui nous a amené avec nos collègues à parler de résurrection des pesticides. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un truc qui est caché sous le tapis, le jour où vous nettoyez le tapis, eh bien, ça remonte à la surface. Voilà. C'est ce qui se passe. Donc c'est un point important. Et pourquoi je vous montre ça? C'est si on revient sur nos questions de zone critique et d'anthropocène, etc. C'est que, en fait, rien n'est anodin. Tout a un impact sur la Terre. Et la zone critique, c'est important parce que la manière dont elle fonctionne conditionne un tas de choses. On n'aurait pas imaginé qu'il y avait forcément un lien entre l'érosion et l'émergence de pesticides. Quand vous discutez avec un nantillais, il ne va pas vous dire « mon problème avec la chlordécone, c'est qu'il y a de l'érosion ». Évidemment, ce n'est pas ça qu'il va percevoir. Pourtant, c'est extrêmement important. Et on soupçonne que la raison pour laquelle aujourd'hui les poissons sont contaminés autour de Martinique et Guadeloupe, à la chlordécone, c'est énormément lié au fait que tout le stock de chlordécone qui était dans les sols s'est retrouvé en mer via l'expulsion par l'érosion des sédiments. Voilà. Donc ça, bah, pas comme tout à l'heure, hein, c'est un petit schéma qu'on a fait pour publier un modèle explicatif générique. Donc là, il était basé plutôt sur la Savoie, mais ça vaut aussi pour les Antilles. Bref, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est bien... Enfin, aujourd'hui, la recherche scientifique a cessé d'être cloisonnée. Il n'y a plus ceux qui travaillent sur le vivant, ceux qui travaillent sur les hommes, les sciences humaines. On essaye au maximum de travailler ensemble pour aborder les choses sous un angle systémique. La zone critique nous donne le cadre conceptuel pour le faire. Un truc qu'il faut retenir aussi, c'est ce que j'ai essayé de représenter par cette flèche, c'est qu'il y a un héritage des états antérieurs. C'est-à-dire qu'on hérite forcément de ce qui s'est passé auparavant, volontaire ou pas volontaire. Et puis ensuite, donc, ce qui se passe, c'est une interaction entre le climat, la géodynamique et la biosphère dont nous faisons partie. C'est un des enseignements aussi de l'écologie, la philosophie de l'écologie des derniers temps. Il faut remettre l'homme dans la nature. Il faut arrêter de se considérer comme étant une espèce totalement à part. Nous sommes une espèce extrêmement ingénieuse, capable de beaucoup de choses. Et donc, on doit se considérer comme un parmi les autres, quoi. Voilà, alors je vous avais mis quelques idées de lecture si vous voulez approfondir toutes ces questions. Bruno Latour est évidemment. Le bouquin de Blin et Jean Covici. L'événement Anthropocène qui revient sur, si ça vous intéresse, de répondre à la question de Jean-Yves. Fressoz et Bonneuil mettent un petit peu à mal ce concept et donnent une perspective historique dessus qui est hyper intéressante. Manière d'être vivant, Morisot, tout ce qui est fait par Morisot. Ça va vous montrer que vous êtes une espèce parmi les autres et qu'il va falloir commencer à négocier avec les autres, même si elle a des grandes dents, qu'elle est poilue et qu'elle mange vos moutons. Et je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer un de mes maîtres à penser, Alain Supiot, la gouvernance par les nombres, qui va questionner les valeurs dominantes de notre société. Les gens ont proposé le capitalocène plutôt qu'anthropocène. C'est sans doute pas très très loin de la vérité.
Question très rapide, tu parlais de la zone critique. Est-ce que tu peux nous donner une idée de la taille? Au-dessus, on a compris que c'était les arbres, mais en dessous...
Si. Celui-là, il marche maintenant. Donc, c'est la zone qui est altérée. C'est quelques centimètres si tu vas dans les landines alpines. D'accord? Si tu vas dans les Alpes, quelques centimètres d'altération, les sols les plus pauvres. Et c'est plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Si on va sous les tropiques, on peut avoir 30-40 mètres de latérite qui ont été altérés depuis des années. Donc c'est pour ça qu'on ne donne pas de définition en centimètres, si tu veux, mais vraiment en processus. Est-ce que la roche est altérée ou pas?
Dépêchez-vous, il va nous foutre dehors.
PCB dans le lac du Bourget, super question. PCB, une espèce particulièrement taquine, on va dire, hein, particulièrement volatile. Donc PCB dans le lac du Bourget, pourquoi ? Parce qu'il y avait une usine qui faisait du pyralène qui a eu quelques fuites. PCB dans le lac d'Annecy, pourquoi ? Parce que les PCB sont volatiles. La surface du lac du Bourget, c'est une grande surface d'émission de PCB, donc ce qu'on appelle l'effet halo, hein, on a publié quelque chose là-dessus. Et ensuite, bah, ces PCB vont, donc cette grande flaque, c'est une très grande flaque, le lac du Bourget, hein, c'est une surface d'émission, les PCB restent en surface de l'eau en fait, et sont volatiles, donc ils sont émis vers l'atmosphère, et ils vont se reconcentrer dès qu'il fait froid. Donc quand ça condense sous forme de gouttelettes et qu'il pleut, bah, ça retombe. Donc c'est retombé sous forme de neige, par exemple, autour du lac d'Annecy, et c'est revenu dedans. Ce qui fait qu'on a pu avoir une contamination à longue distance, sans contact direct, par l'atmosphère. Et les PCB aujourd'hui sont hyper concentrés, du coup, dans les neiges et les glaces les plus hautes. C'est volatile et donc ça se condense quand il fait froid. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème de relargage de PCB avec la fonte des glaciers. Désolé, hein, c'est compliqué.
Des durées des périodes interglaciaires, est-ce que ça a tendance plutôt à se raccourcir ou plutôt à se
rallonger ? Les périodes glaciaires interglaciaires, c'est super connu, c'est calculé, c'est de la mécanique céleste, donc c'est de la physique de Newton, super facile, entre guillemets, je ne suis pas capable de le faire. Hein. L'interglaciaire dans lequel on est était censé être un interglaciaire particulièrement long par rapport aux autres. En général, il faut entre 10 et 20 000 ans, celui-ci était prédit pour durer 30 000 ans. Donc, la grande peur que les gens avaient au début du XXe siècle, qu'on ait le retour d'une ère glaciaire, puisque c'était le grand moment où on a découvert ces fluctuations glaciaires interglaciaires. Donc les gens avaient qu'une peur, c'était finalement que les glaciers reviennent. Et donc ça a été démontré par les paramètres orbitaux de la Terre que le prochain interglaciaire, le prochain glaciaire, pardon, sera dans plus de 20 000 ans. Et donc on n'a pas tellement, on peut pas miser là-dessus, si vous voulez, pour lutter contre le réchauffement climatique. Enfin, on peut, hein, mais on aura le temps, quoi. Alors, donc la question, c'est est-ce que j'adapte mon discours par rapport au lobby du pétrole pour pas qu'ils viennent exploiter le pétrole du lac du Bourget dans un million d'années ? Non, non, sérieusement, d'abord, ils n'ont pas besoin de moi. Ils savent très, très bien aller chercher des systèmes non conventionnels. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le pétrole qui était facile à récupérer à la surface de la Terre, il a été identifié. Il n'est pas forcément exploité, mais il a été identifié. Ça fait maintenant 20 à 30 ans que les pétroliers parlent de non conventionnel. Donc, ils vont chercher d'autres trucs. Les lacs, les anciens lacs, font partie de ces gisements non conventionnels qui sont réfléchis et investigués de par le monde. Et malheureusement, ils n'ont pas besoin de moi pour les trouver. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai jamais fait en sorte que des pétroliers s'intéressent à ça. Je n'ai pas de confidence. J'ai travaillé une fois dans un projet qui était financé par Total, effectivement, pour étudier effectivement des sédiments qui pouvaient être des analogues de lacs dans lesquels il y aurait de la production de matière organique un peu particulière. Voilà. À Mayotte.